Bon matin, ça me fait plaisir de vous voir tous. Il y a quelques mois, une fois, j'avais fait un message et après mon message, Salah était venu me voir et il m'a dit « Ah, Daniel, c'est difficile vraiment ton message. » Alors, la fois d'ensuite, j'ai fait un message et là, Salah a dit très fort « Pas trop difficile, s'il te plaît. » Alors, je suis un homme stratégique, alors j'ai préparé mon message avec d'autres personnes aujourd'hui, dont Salah. Juste pour dire, ça fait 2 semaines qu'on réfléchit à ce message-là. Juste pour vous dire, mon équipe, il y a eu Salah, Pierre, Louise et Brigitte qui m'ont aidé à réfléchir à ce message. Avant que je commence, j'avais une idée. Parce que je me disais, c'est merveilleux que le Seigneur, même si on se trompe en prière, il y a comme, je dirais, un correcteur. J'ai l'impression, tu sais, Dieu, il comprend mieux nos prières que ce qu'on formule, tu sais. Tu sais, je me rappelais, c'est pas pour souligner une erreur dans une prière qui a eu lieu il y a pas longtemps, mais je me rappelle qu'une fois, quand j'étais petit bonhomme, là, 10 ans peut-être, j'allais demander, il y avait un mariage dans la famille, puis là, il y a un DJ, puis j'étais allé demander une chanson qui devait être populaire, là, puis je savais dans ma tête c'était quoi la chanson, tu sais. Mais quand j'ai dit un mot, là, qui avait pas rapport, tu sais. Fait que, à un moment donné, « une demande pour Daniel! » Puis là, il part la chanson, puis « Non, c'est pas ça que j'aime, tu sais. » Mais la merveille, c'est que le Seigneur, lui, il est meilleur DJ, disons, il connaît mieux le vœu de nos prières. Alors, j'aimerais juste qu'on prenne quelques instants pour prier ensemble. Et j'ai une demande spéciale, c'est que je sais qu'on a plusieurs langues ici. Puis, je vous demande de penser à une louange à Dieu, mais j'aimerais ça que vous l'exprimiez dans la langue de votre cœur, dans la langue de votre maman peut-être, dans la langue dans laquelle vous avez grandi. Alors, je suis convaincu que il y a plusieurs langues. Est-ce que quelqu'un est à l'aise de dire quelle serait la langue de son cœur qui peut exprimer une prière? Oui, à part le français. Est-ce que quelqu'un qui serait à l'aise d'exprimer une prière? Oui, une prière en arabe, une louange en arabe. Merci. Est-ce que... Oui? Lingala? Lingala. Amen. Est-ce qu'il y en a d'autres langues? Il existe... oui, là-bas. En créole? En suédois? Très bien. Oui? Une langue autochtone? Gloire à Dieu. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui priera en anglais? Ça existe l'anglais au Québec aussi, hein? Mais sentez-vous à l'aise de... Mais Bill, ou je ne veux pas l'imposer à qui que ce soit, sentez-vous à l'aise de louer Dieu, de juste élever une louange à Dieu. Élevons une louange à Dieu dans la langue de notre cœur qui sort naturellement. Et je me dis justement, c'est une façon de glorifier Dieu. Amen. Donc, entrons en présence du Seigneur, puis louons-le. Une louange. Et pardon, si vous entendez une louange, on essaie de la faire courte, brève quand même, mais si vous entendez la langue de quelqu'un d'autre et vous dites « Ah, c'est une bénédiction, il faut que je la traduise. » Traduisez-la. Amen. Oui, Seigneur, reçois la louange de nos bouches, entends nos prières et bénis la suite de cette célébration dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si tout le monde a eu l'occasion d'élever sa langue, j'ai pas compté, là, mais je nous encourage alors, en fait, à tout à l'heure, pendant la louange, vous savez, parfois en 2 chants, il y a un vide. Et parfois, il y en a qui élèvent la voix en français, mais je vous encourage même à élever la voix dans la langue de votre cœur aujourd'hui, dans la langue, votre langue maternelle ou celle qui dans laquelle vous êtes, vous parlez à Dieu. Amen. Alors, tout à l'heure, pendant les chants de louange, ou entre les chants de louange, élevez votre voix. À ceux qui parlent, ceux qui c'est le français, élevez la voix aussi, gênez-vous pas. Mais ceux qui ont une langue autre que le français, faites-la résonner auprès du Seigneur aussi, pour sa gloire. Amen. Bon, moi ça, j'ai fini. Oui. Très bien. Alors, mon deuxième message. La question que qu'on aborde ce matin, c'est pourquoi est-ce que Jésus a été rejeté il y a 2000 ans? Pourquoi est-ce que les gens, les personnes qui étaient autour de Jésus l'ont rejeté? Pourquoi ils n'ont pas accepté son message? Souvent, on se pose cette question-là. Oui, sauf que c'est une question de rhétorique. Je ne cherchais pas tout de suite une réponse. Mais attends un petit peu. Parce que aussi, j'ai travaillé avec 4 autres personnes. On peut en reparler après. Mais là, juste... pour avancer un peu. J'ai réalisé, en fait, que c'est une question difficile. Hein? Pourquoi les gens ont rejeté Jésus? C'est pas difficile dans c'est facile à dire, vous êtes capable de dire avec moi pourquoi les gens ont rejeté Jésus. C'est pas difficile comme tel, mais ça nous place dans une position différente. C'est-à-dire que nous, quand on lit les évangiles, on le connaît déjà, Jésus. Hein? On est déjà au courant de l'histoire. Fait que c'est sûr que pour nous, on se dit tout de suite, mais pourquoi eux, ils l'ont rejeté? Hein? Parce qu'on est dans une position, on pourrait dire, supérieure. On a des informations secrètes. On est déjà au courant. Ou on a déjà eu une rencontre avec Jésus, une révélation de lui. C'est ce qui fait que ça nous semble mystérieux. Pourquoi ils l'ont rejeté? C'est parce qu'on est déjà au courant. Comme je dis, c'est une question, moi, je trouve difficile parce que, justement, dans une position un peu supérieure, nous, on est au courant, tu sais. Moi, je le sais, là, tu sais, que Jésus... Oh, ma bite, en vrai. Moi, je le sais que Jésus, c'est le Messie, tu sais, puis je sais qu'il a la vérité, qu'il est le chemin et la vie. Mais quand on y pousse un peu plus, l'autre côté qui est difficile, c'est que, en fait, on assume, quand je formule cette question-là, pourquoi est-ce que eux autres ont rejeté Jésus? C'est que je prends tout de suite pour acquis que moi, je ne l'aurais pas rejeté. Si moi, j'avais été là, moi, je ne l'aurais pas rejeté. C'est sûr que tout de suite, je me serais jeté à ses pieds, tout de suite, je l'aurais suivi. Et donc, c'est comme je dis... Pour aborder la question, il faut que je me descende un petit peu. Il faut que je m'abaisse un peu puis dire, OK, et si je me mettais au niveau des humains de cette époque-là? Si je me mettais au niveau des êtres humains qui vivaient autour de Jésus? Et c'est pour ça qu'à mon groupe de préparation, j'aurais dit, on va penser, essayons de penser en humain. Alors ce matin, je vous invite à penser en humain. Et je suis certain que dans votre tête, vous dites, mais je ne suis qu'humain, je ne peux pas penser autrement. Mais vous allez voir, ça c'est l'autre côté qui fait que cette question-là est difficile. Parce que si je pose la question, pourquoi ils ont rejeté Jésus, facilement on peut avoir la réponse qui dit, mais c'était inévitable, c'était obligé, hein? C'était le plan de Dieu, c'était ça que Dieu voulait. Mais quand je pense comme ça, quand je réponds comme ça, en fait je suis en train de penser comme Dieu. C'est-à-dire que je m'élève au niveau de Dieu, puis je dis, mais Dieu, c'est ça que Dieu voulait. Donc, mais là, je me dis, il faut que je descende un peu, puis je dis, OK, d'un niveau humain, comment ça se vivait? Je dois admettre aussi que j'aime pas la réponse de dire c'était inévitable, c'était obligé, Dieu voulait ça comme ça. J'apprécie pas beaucoup ce type de réflexion-là. D'abord parce que ça nous empêche de penser. J'ai plus besoin de penser, c'était la volonté de Dieu, c'était comme ça, alors j'ai pas besoin de réfléchir plus loin. Mais l'autre raison pour laquelle j'aime pas cette réponse, c'est que vraiment je crois dans la liberté humaine. Je crois que Dieu nous donne de la liberté de choisir et qu'il rend pas les éléments de notre vie inévitables. Tu sais qu'on peut choisir d'aller à gauche ou d'aller à droite, on peut choisir de s'habiller en short ou en pantalon, on peut choisir de suivre Jésus ou de pas suivre Jésus. Personnellement, j'ai vraiment cette approche-là, de cette foi-là, que dire Dieu nous donne beaucoup de liberté. Donc, les humains qui étaient autour de Jésus avaient beaucoup de liberté. « De la même façon, ah oui. En pensant de cette manière-là, ça m'amène aussi à essayer de contempler Jésus dans les évangiles comme il était un être humain. Hein, dans nos doctrines, on dit Jésus était 100% homme, 100% Dieu. Mais il faut bien se rappeler, souvent quand on lit les évangiles, puis on se dit, ah, mais comment ça? Ah, mais Jésus, c'était Dieu, tu sais, c'était Dieu, c'était normal. Tu sais? Et donc, on prend des raccourcis comme ça pour dire, mais Jésus, c'est une exception. C'est vrai qu'il était exceptionnel. Mais il a vécu entièrement comme un humain. Est-ce que j'ai un amen là-dessus ou non? Oui? Merci. Ben, juste pour renforcer votre amen, je veux juste vous le lire dans Hébreux 4. Brièvement, rapidement, juste pour vous dire que Jésus a vraiment vécu comme un humain. Hébreux 4 au verset 15. Les évangiles prennent la peine de nous raconter, par exemple, la naissance de Jésus. Puis souvent, on dit, ah, mais tu sais, Jésus, il a eu une naissance miraculeuse. C'est vrai. Mais si les évangiles nous racontent sa naissance, c'est en particulier pour nous rappeler qu'il est venu du ventre d'une femme, donc il est un humain. Il était vraiment vécu comme un humain. Donc, Hébreux 4, 15, il dit, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre. » Et là, il parle de Jésus. Jésus, dans les cieux, il est notre grand prêtre. Donc, il dit, « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. » Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Mais il a été tenté en tout point comme nous le sommes. Donc, il a vécu les mêmes épreuves, des épreuves de la même façon que nous, de façon humaine. Quelqu'un a déjà eu faim ici? Quelqu'un, là, j'ai une question, on lève la main. Quelqu'un a déjà eu faim? Quelqu'un a déjà eu très faim? Eh bien, Jésus a eu très faim. J'ai pas besoin de tourner dans les Écritures, dans Matthieu au chapitre 4 et Luc 6, 4 encore aussi. Mais juste pour dire, Jésus a vraiment vécu et il a éprouvé les choses comme un vrai être humain. Je vais vous tourner, on va lire un passage en particulier qui est dans Luc au chapitre 7. Moi, j'ai la version du Semeur, alors je sais que parfois c'est différent. Les différentes versions, tous. Donc, Luc 7, versets 36 à 49. J'entends encore des faits, alors j'attends un petit peu. Très bien. Un pharisien invita Jésus à manger. Jésus se rendit chez lui et se mit à table. Juste pour être un pharisien, c'était un groupe, disons, religieux parmi les juifs de l'époque. Un pharisien, ça veut dire ceux qui sont purs, ceux qui sont à part, sont séparés du reste des autres. J'aimais une expression, Pierre a dit, c'était des extrémistes de la sainteté, on pourrait dire. Et donc, c'est des gens qui s'appliquaient à respecter toutes les lois de Dieu. Ils cherchaient à être purs pour Dieu, devant Dieu. Donc, en même temps, c'est une bonne volonté, mais ça faisait des gens religieux très extrêmes. Extrêmes parce que, par exemple, il y a un autre moment, Jésus nous dit qu'il filtrait l'eau qu'il buvait pour être sûr de ne pas avaler un moucheron. Parce que si tu avales une mouche, bien, la mouche n'a pas été égorgée, puis tu n'as pas le droit d'avaler un animal qui n'a pas été égorgé. Tu sais, il faut qu'il soit saigné. Donc, il ne voulait pas avaler de moucheron. Donc, il filtrait l'eau qu'il buvait. On remarque, on serait tous contents de ne pas avaler une mouche, là, mais la raison, elle était religieuse. Elle était sainte, en quelque part. Tu sais. Mais ça montre un peu le côté un petit peu extrême des pharisiens. Alors, donc Jésus est à table avec le pharisien et survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Excusez, j'arrête mon lecture. Je sais que des fois, moi, ça me fatigue quand le lecteur il fait ça. Alors, j'ai compassion pour vous. Alors, Jésus est assis à table. Pardonnez. Donc, avis à tous les autres prédicateurs, je vais être patient envers vous la prochaine fois que vous faites ça aussi. Mais c'est juste pour mettre en situation, j'aimerais ça que vous voyiez avec moi là, ce qui se passe. Jésus est assis à table avec le pharisien. Alors ça, c'est notre façon habituelle d'imaginer être assis à table avec un pharisien. Et par conséquent, vous allez voir dans la suite que la femme va se jeter à ses pieds puis va pleurer à ses pieds. Alors c'est je ne demanderai pas à quelqu'un de venir me montrer comment ça se passe, mais ça fait quand même vraiment bizarre pour un Nord-Américain d'imaginer qu'une femme se jette aux pieds de Jésus pour pleurer en fait là, même. Mais juste pour vous dire que à cette époque, les gens se mettaient à table par terre. Et donc, c'est sûr qu'on n'a pas de vidéo de ça. Et donc, là, vous m'excuserez pour ceux qui sont assis derrière, mais je vais vous montrer. C'est que les gens, ils mangeaient à table comme ça. Oui, vous avez regardé. Donc, le repas est là, devant, et ils partagent le repas, et l'autre est assis en face, et ils sont comme ça, un avec l'autre. Ça pour dire que... Ça pour dire que la femme qui va se jeter à ses pieds, bien, en fait, elle est derrière, elle vient pas s'asseoir à table, elle reste derrière Jésus. C'est juste pour nous aider à voir l'image. Donc, je reprends. Jésus est assis à table. Donc, pardon. Se rendu chez lui, il se mit à table. Verset 37. Survint une femme connue dans la ville pour sa vie dissolue. Comme elle avait appris que Jésus mangeait chez le pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre rempli de parfum. Elle se tient derrière lui, à ses pieds. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'elle n'est pas en dessous de la chaise, c'est ça que je voulais dire. Elle se tient derrière lui à ses pieds. Elle pleurait. Elle se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Alors elle les essuya avec ses cheveux et les embrassant, elle versait le parfum sur eux. En voyant cela, le pharisien qui l'avait invité se dit, si cet homme était vraiment un prophète, il saurait quelle est cette femme qui le touche. Que c'est quelqu'un qui mène une vie de débauche. Jésus lui répondit à haute voix. Simon, c'est le pharisien, j'ai quelque chose à te dire.
Oui, maître.
Parle, répondit le pharisien. Il était une fois un prêteur à qui deux hommes devaient de l'argent. Le premier devait 500 pièces d'argent, le second 50. 550. Comme ni l'un ni l'autre n'avait de quoi rembourser leur dette, il fit cadeau aux deux de ce qu'ils lui devaient. À ton avis, lequel des deux l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je suppose, auquel il aura remis la plus grosse dette. Voilà qui est bien jugé, lui dit Jésus. Puis se tournant vers la femme, il reprit, tu vois cette femme? Eh bien, quand je suis entré dans ta maison, là, tu ne m'as pas apporté de l'eau d'eau pour me laver les pieds. Mais elle me les a arrosés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas accueilli et m'embrassé en m'embrassant, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de couvrir mes pieds de baisers. Tu n'as pas versé d'huile parfumée sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, et c'est pour cela qu'elle m'a témoigné tant d'amour. Mais celui qui a eu peu de choses à se faire pardonner me manifeste que peu d'amour. Puis il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Les autres invités se dirent en eux-mêmes, qui est donc cet homme qui ose pardonner les péchés? Mais Jésus dit à la femme,
parce que tu as cru en moi, tu es sauvé, va en paix.
J'ai apprécié dans notre groupe de préparation, une des informations privilégiées. Salah, est-ce que tu voudrais venir nous transmettre des informations privilégiées qu'on a reçues? Alors, Salah, et pendant qu'on discutait de ce texte-là, Salah nous a dit, ah, il y a quelque chose, il va nous donner un exemple de ce qui se passe dans son village au Liban.
Oui, bonjour. Alors, si quelqu'un n'est pas bienvenu, en principal dans les campagnes, dans le village, on ne donne pas de l'eau à lui, ni une bague. Ça veut dire qu'il est rejeté, il n'est pas bienvenu. Ça, c'est une tradition depuis longtemps. C'est comme, encore, si vous rappelez, quand Jésus a fait le miracle du vin, puis les gens, ils l'ont donné le vin à la fin de la fête. Et le monde disait, pourquoi le pas bon vin, c'était au début, et le bon, c'était à la fin. C'est une tradition. Alors, c'est un sujet de rejet, comme on n'offre pas ni l'eau ou un bec.
Donc, si j'arrive dans ton village, dans ta famille, là-bas, en montagne, qu'est-ce qu'ils vont faire habituellement?
Habituellement, si quelqu'un est le bienvenu, on offre l'eau, puis on donne un bec à lui, puis comme il est le bienvenu.
Mais tu veux-tu me donner l'exemple? Comment tu donnes le bec, là? C'est moi qui est là.
C'est comme... comme ça.
Même les hommes?
Même les hommes, c'est ça. Pas les femmes.
Ah, OK.
Pas les femmes.
Oui, ben on peut... en fait, merci, Salah.
Donc là, on peut se poser la question, en fait, pourquoi il a invité Jésus s'il ne l'accueille pas bien? Le texte nous donne un indice, on n'y avait pas réfléchi. Mais on peut essayer de spéculer là-dessus. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais on voit que... On pourrait se demander justement comment... c'est ça. Pourquoi il l'a invité s'il ne l'accueille pas? Hein? S'il ne prend pas soin? En fait, c'est dans la question du pharisien, quand il parle dans sa tête, qu'on peut s'en douter. Il dit, s'il était un prophète, donc on peut se douter qu'en fait, il croit pas vraiment, il s'est dit, on va le mettre à l'épreuve, on va aller voir s'il est vraiment un prophète. Donc c'est pas, on t'invite comme un prince. C'est à partir du texte que je le devine un petit peu. Mais à la lumière de ce que Salah nous dit, je réalisais, en fait, Jésus est là, il est assis parmi à table, parce qu'on voit qu'il n'est pas tout seul en tête à tête avec des chandelles, avec le pharisien. Il y a d'autres invités, il est assis là. Mais dès son entrée dans la maison, il n'est pas accueilli. Il n'est pas bienvenu. Et la réflexion qui me vient, c'est qu'en fait, il est déjà rejeté. Déjà, Jésus, il arrive... Puis il est rejeté. Et il est assis là. Puis, en fait, c'était Pierre qui a dit une phrase quand on réfléchissait là-dessus. Il dit, quand tu es dans un endroit que tu te sens pas bien, là, tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Et si je me mets à penser comme un humain, puis j'essaie de lire les évangiles comme un humain, et que je me dis, Jésus était un être humain, il serait pas surprenant que Jésus était assis là puis qu'il se dise « Qu'est-ce que je fais ici? » Si on veut penser comme Dieu au-dessus, comme pas un être humain, on va se dire « Ah, il dit, je sais, je suis là pour accomplir la volonté de Dieu. » Mais même quand on sait qu'on fait un pas de foi pour faire la volonté de Dieu, des fois on se dit « Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je suis en train de faire là? » Je vais vous dire que quand j'étais malade au Niger, j'y ai pensé souvent. Qu'est-ce que je fais ici? Et Hébreux 4 nous a dit, Jésus a été éprouvé de la même façon que nous. Alors, en groupe, on a essayé de réfléchir comment on se sent quand on se sent rejeté, quand on va quelque part. Et là, je ne sais pas si mes collaborateurs sont toujours d'accord. Pierre, est-ce que tu voudrais venir partager un exemple? Alors, donc, j'ai demandé à, non pas à tous, mais à quelques-uns, mais de venir partager comment on se sent quand on se sent rejeté dans un lieu.
Bon, bien voilà. Faut que je remonte 40 ans en arrière. J'étais gradué au secondaire et il y avait une partie de Cossam et les chefs de. Il y avait deux capitaines, alors ils choisissent les joueurs. Et moi, on m'a choisi en dernier parce que j'étais nouveau. Personne ne me connaissait. Alors, on débute la partie, tout ça. Et personne ne me faisait de passe. Moi, j'étais comme tout seul. Personne ne me bloquait. C'est comme si on m'ignorait. Et voilà. C'est ça, le rejet.
Et as-tu un mot pour nous dire comment on se sent dans ce temps-là?
On se sent mal. Mm-hmm. On se sent... qu'est-ce que je fais ici, moi, là? Ouais.
Merci, Pierre.
Merci, un peu de temps.
Brigitte, veux-tu venir?
Moi, l'exemple que j'ai, c'est dans le temps de Pâques, on était à un restaurant.
Ouais, approche-toi du micro.
OK. C'est ça. Nous autres, c'est dans le temps de Pâques, on était au restaurant. Puis, évidemment, au restaurant, toutes les familles se réunissent, puis tout ça. Puis moi, je suis un petit peu observatrice aussi. Puis, j'avais remarqué qu'il y avait une famille pas loin de notre table qui était là. Et puis, c'est une mère qui était avec ses deux filles. Puis, tu vois que les filles étaient contentes, bon, de retrouver leur mère, puis tout ça, puis on fête, puis bon. Et puis, la mère était toute seule avec une de ses filles. Puis, quand l'autre fille est arrivée, j'ai vu l'exclamation de la mère, c'était comme « Wow, celle-là, elle a de la classe. » Tu vois, on a vu tout de suite que les deux n'avaient pas la même classe là, sociale. Fait que même que la mère, elle a dit à sa fille de céder sa place à l'autre pour que l'autre puisse être à côté comme « t'es la plus importante. » Tu sais. Fait que les deux filles étaient importantes pour la mère, mais je me suis mis un petit peu dans la peau, moi, de la fille qui s'est faite changer de place. Puis c'est comme, je veux dire, quand je l'ai pris un petit peu comme personnel, je me disais, dans le fond, tu fais partie du décor pour bien paraître, finalement, pour les parents ou quoi? Il y a beaucoup de gens, je trouve, qui vont associer, ils vont associer la classe sociale, l'instruction, ils vont la comparer à l'intelligence. Puis c'est ça que je trouve moche, parce que, oui, c'est de l'injustice. Et puis, c'est ça.
Merci, Brigitte.
Et est-ce que Jésus pouvait se sentir comme ça quand il faisait pas de passe autour de la table? Qui est arrivé le dernier. Est-ce que Jésus pouvait sentir quasiment que quand le pharisien il voit la fille arriver puis que là Jésus est là, est-ce que Jésus peut pas sentir, oups, on vient de me demander de céder ma place là. On vient de me demander, oups, lui, s'il était un prophète là, oui. Mais là, je superpose sur juste des exemples, mais sur le sentiment que Jésus pouvait avoir à ce moment-là. Et ce qui me fascine en réfléchissant à cette idée-là, c'est justement de dire Jésus était déjà rejeté, en fait, avant d'avoir parlé. À son arrivée, déjà Jésus se promenait quelque part et les gens avaient des préjugés contre lui. Par conséquent, à ce moment-là, je me dis, c'est pas si étonnant que les gens ont même pas écouté son message. Puisque déjà, les gens ont de la misère à l'accepter en tant qu'homme, en tant qu'humain. Et peut-être me dire, ben non, Jésus, il était beau, Jésus, tu sais. Il était fort, Jésus. Et il était honorable, Jésus. En fait, on ne sait pas. C'est-à-dire, physiquement, on ne sait pas vraiment. On le souhaite. Mais j'aimerais vous montrer un exemple dans Jean, chapitre 1. Juste montrer comment que les gens pensaient déjà à Jésus avant même de l'avoir vu. C'est dans Jean 1, verset 44 et suivant. C'est Philippe, un des apôtres. Il était originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe, à son tour, alla voir Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi et dans les prophètes, et que les prophètes ont annoncé, pardon. C'est Jésus, le fils de Joseph, de la ville de Nazareth. » Nazareth. Qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Le texte nous met déjà un indice, un évangile que Nathanaël n'a même pas rencontré encore Jésus, mais il juste, ah, il vient de Nazareth. Oublie ça. Il aurait beau être grand, fort, musclé ou quoi. Non, Nazareth. Oublie ça. Heureusement, Nathanaël va rencontrer Jésus. Et là, Nathanaël, il va avoir la rencontre de Jésus. Il va l'entendre, probablement à cause de son bon ami Philippe, on suppose. Mais juste pour vous montrer, si Nathanaël, lui, est capable de tout de suite rejeter Jésus, je ne serais pas surpris que beaucoup d'autres l'aient rejeté comme ça. Nazareth, des fois on l'oublie quand on lit le Nouveau Testament, mais Nazareth et la Galilée, ça se trouve dans l'ancien royaume d'Israël. Puis tu avais Jérusalem qui est dans l'ancien royaume de Judée. Et même nous, quand on lit l'Ancien Testament puis qu'on lit quelque chose sur les rois d'Israël, on se dit, moi j'irai à Jérusalem. T'sais. Mais Jésus, il vient de la Galilée, du côté de l'ancien royaume d'Israël. Et donc, on ressent les préjugés qu'il y avait déjà là. Et donc, ça c'est un exemple pour dire comment Jésus était déjà, en fait, étiqueté avant même d'avoir parlé encore, comme je dis. Et ça démystifie un petit peu, hein, parce qu'on se dit, finalement, c'est nous, on a accepté le message, on n'a jamais rencontré Jésus en chair et en os. On n'a pas été confronté à cette réalité-là. Ça peut peut-être démystifier. Une autre réflexion qu'on a eue dans notre petit groupe, c'est Jésus... Si on pense en humain encore, hein, on reste sur le plan des humains, c'est qui le papa de Jésus? Là, je pose quelqu'un a une réponse. C'est qui le papa de Jésus? Oui, humainement. Joseph. Mais si vous êtes informé un petit peu, c'est qui le papa de Jésus? Hein? Si on est informé par une révélation, on dit que c'est le Saint-Esprit, mais sinon... C'est Joseph, mais les autres frères, ils ressemblent plus peut-être à Joseph que Jésus. Et les pharisiens, ils vont pas la manquer, celle-là. Dans Jean 8, à un moment donné, ils sont en argumentation avec Jésus. Puis il y a une petite phrase, c'est un commentateur qui m'a fait remarquer ça. Il y a une petite phrase que les pharisiens vont se permettre pour essayer de tuer l'argument de Jésus. Parce que Jésus, il est toujours là en train de dire, c'est notre Père qui est aux cieux, priez, mon Père qui est dans les cieux, et tu sais. Dans Jean 8, pardon, je vais marquer la référence. Jean 8, 41. Ils sont en train de s'astiner, les apôtres. Et Jésus leur lance... une phrase assez vive, hein? Il dit, vous agissez, ça c'est Jésus qui parle ici à ce moment-là, vous agissez exactement comme votre Père à vous. Donc, il dit ça aux pharisiens. Vous agissez comme votre Père à vous. Et les pharisiens répondent, mais nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous n'avons qu'un seul Père, c'est Dieu. Mais nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Ils s'étaient informés sur qui était Jésus. Et déjà savoir, un, il vient de Nazareth. Il y a un père, on n'est pas sûr si c'est Joseph. Cet homme-là, il peut pas être prophète. Il peut pas être fils de Dieu. On l'écoute pas. Et un dernier indice encore, c'est dans Luc à la naissance, à l'histoire de Noël. Il y a une petite chose, c'est super, en fait, on le redit toujours à Noël, puis c'est vraiment mignon. Je m'en rappelle encore quand on fait la crèche vivante, c'est même rigolo la manière qu'on le fait. Dans Luc 2, 7, ils sont arrivés à Bethléem, puis ça dit, elle mit au monde un fils, son premier-né. Elle lui mit des langes et le coucha dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la pièce réservée aux autres. Ah, dans la pièce réservée aux autres. Donc, c'est dit dans les auberges, ou que, c'est quoi l'autre mot? Dans l'hôtellerie. Et c'est tout mignon, ça nous fait des... On fait des bonnes blagues en général. Je revois Jean-François qui faisait l'aubergiste. Là. Mais dans un pays où la culture, c'est l'hospitalité, où ce que Jésus pouvait même dire à ses disciples, va, puis allez, et dans la pièce du marché, on va vous accueillir. Et si personne ne vous accueille, bien, allez ailleurs. Puis secouez la poussière de vos pieds. Donc la culture de l'hospitalité est tellement forte que Jésus peut dire à ses disciples, faites comme ça. Et eux, ils arrivent, une femme enceinte, puis bien enceinte pour qu'elle accouche, et on leur réserve pas une place. On les accueille pas. Et donc, même la famille Marie-Joseph était suffisamment pauvre, parce qu'on le voit ailleurs dans les Écritures, qu'on leur réserve pas une place dans l'hôtellerie, dans l'accueil parmi les gens. Et donc, Jésus... Ma réponse que je vous suggère sur le pourquoi il a été rejeté, eh bien, c'est parce que humainement, il était rejetable. Humainement, on pouvait se permettre, c'est le genre de personne qu'on pouvait se permettre de dire non, lui, c'est pas grave. Non, c'est un illuminé, là, tu sais. Bien sûr, il y en a plusieurs, hein, qui ont dit, mais d'où lui vient toute cette sagesse-là? En fait, si quelqu'un qui sort de l'université puis qui nous parle des merveilles de Dieu, on va peut-être pas autant se dire d'où lui vient cette sagesse-là. Tu sais, on dit oh, il a son diplôme, c'est correct, c'est normal. Mais Jésus arrive et lui, il n'a pas de diplôme, il a que sa relation avec le Père et sa relation spéciale avec Dieu le Père en tant que humain quand même. Qui lui vient toute cette sagesse-là. L'émerveillement qui me vient quand je pense à ça, en fait, c'est de me dire, c'est pas tellement pourquoi est-ce qu'ils ont rejeté Jésus. Parce que, honnêtement, souvent dans mes temps de prière, quand je lis les Écritures comme ça, je dis, Seigneur, il me semble que je sais pas si j'avais été là, si moi je t'avais accepté. De voir que tu te tenais avec des gens tout croche, des gens de mauvaise vie, que tu devais avoir de l'air vraiment ordinaire. Et je me dis, la merveille, c'est de dire, comment ça se fait qu'il y en a qui l'ont accepté? Et ça, c'est une beauté incroyable. Ça m'émerveille quand je viens dans l'église, quand je rencontre des chrétiens, ben je me dis, comment ça se fait qu'on l'a accepté? Comment ça se fait qu'on s'est laissé éblouir par lui, qui est venu nous trouver. Eh bien, c'est grâce à notre rencontre. Maintenant, le défi qu'on peut rencontrer aussi là-dedans, c'est dire, je ne dois pas mettre une barrière dans mon frère, dans ma sœur, parce que je peux encore le rencontrer chez mon frère, ma sœur, qui peut-être ressemble plus à Jésus que moi. C'est-à-dire, il est peut-être plus rejetable que moi. Il est peut-être plus méprisable que moi. Mais je peux rencontrer Jésus dans ce frère, dans cette sœur-là. Et ça, c'est un défi. Pour moi, c'est le défi. Je voulais terminer avec un texte. Est-ce que le PowerPoint il fonctionne? Merci. C'est un texte qui, vous savez, je vous préviens toujours, ça ne vient pas de la Bible. Donc, c'est le livre ici, La Cité de la Joie. C'est l'histoire d'un prêtre. Ils ont fait un film, mais le film est différent. Oui, pardon. Ah, bien, viens alors, Louise, pardon, ça me fait plaisir. J'avais demandé aussi à Louise, mais j'avais mal compris une information, Louise. Alors, viens. J'avais demandé de venir raconter un exemple de comment on sent qu'on sent rejeté.
Bien, merci de me le raconter.
Oui, ça, je peux partir. Mais oui. OK. Je sais pourquoi je suis. OK. Bon, moi, quand j'étais petite, j'allais à l'école. OK? Puis, les enfants, ils savaient que j'avais une mère qui était autochtone, elle venait de la réserve de Katnawagé. OK? Puis, quand j'allais à l'école, les personnes, il y avait des jugements, il y avait des préjugés. Ils disaient, elle, c'est une squaw, c'est une sale, c'est une sauvage. Ils disaient, regarde, là, il me montrait du doigt. Ils sont très méchants avec moi. Même, ils me donnaient des jambettes. Puis, j'avais les genoux pleins de sang. Il y en a qui me crachaient dans les cheveux. Il y en a qui me maltraitaient.
Et comment on se sent dans ce temps-là?
Je me sentais très malheureuse. Je me sentais mal aimée. Je me sentais comme un rejet. Je me sentais pareil comme Jésus. Pareil comme Jésus quand il s'est fait cracher sur lui, quand il s'est fait fouetter, quand il s'est fait maltraiter. Il était mal aimé. Puis Jésus pourtant il dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aime. Un des dix commandements. Puis là j'ai dit, Jésus, je suis avec toi pour toujours parce que je sais c'est quoi être rejeté, être un rejet. Je sais c'est quoi manquer d'amour dans la société d'aujourd'hui, même dans le passé. Pardon, merci. Non, c'est moi qui te dis, pardon. Oh, OK.
Merci, Louise. Oui. Alors, le texte, c'est le livre, c'est une bonne lecture, c'est amusant. Mais c'est l'histoire d'un prêtre, en fait, qui décide d'aller dans un bidonville à Calcutta. Et il va mettre il décide de vivre dans le bidonville lui-même. Et un jour, il reçoit la visite d'un lépreux. Et c'est l'extrait qu'on va lire. Parce que, vous allez voir, il a mis une image de Jésus dans sa petite cabane, là, en fait, là, parce que c'est une cabane de bidonville. En fait, c'est là. Donc, le lépreux rentre et c'est le lépreux dont on parle. Son regard tomba sur une image du Saint-Suaire. Qui est-ce? Demanda-t-il. C'est Jésus. Le lépreux parut incrédule. Jésus? Non, c'est pas possible. Il ne ressemble pas à l'autre. Pourquoi ton Jésus à toi a-t-il les yeux fermés et l'air si triste? On peut avancer. Je pense que j'ai une image. Voilà. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà vu l'image du Saint-Suaire. Donc, c'est cette image-là qu'il avait dans sa cabane. Oui, voilà. On va avancer un peu doucement. Donc, Paul Lambert, qui c'est le prêtre, là, savait que l'iconographie indienne reproduisait abondamment l'image d'un Christ blond aux yeux bleus, triomphant et coloré, comme les dieux du panthéon hindou. J'ai pas trouvé une image claire, mais ça, on pourrait avoir cette image d'un Jésus glorifiant, fort. Amen. Mm-hmm. Oui, oui, oui. Oui, en effet. Mais si on regarde les films, Jésus, c'est toujours le plus beau des. C'est pas moi qui est l'acteur, mais.
Mm-hmm. Alors, on revient à mon texte, on va juste poursuivre la lecture de la rencontre du lépreux avec l'image de Jésus. Il a souffert, dit-il, en parlant de Jésus. Il dit, le prêtre sentit qu'il fallait expliquer davantage. Bon, une des filles vint traduire ses paroles en bengali. On continue. Et là, c'est le prêtre qui décrit Jésus. Il dit, s'il a les yeux fermés, c'est pour mieux nous voir. Et c'est aussi pour que nous puissions mieux le regarder, nous. Peut-être que s'il avait les yeux ouverts, nous n'oserions pas. Parce que nos yeux ne sont pas purs, ni nos cœurs, et que nous n'avons une grande part de responsabilité dans ses souffrances. S'il souffre, c'est à cause de moi, de toi, de nous tous, à cause de nos péchés, du mal que nous faisons. Mais il nous aime tellement qu'il nous pardonne. Il veut que nous le regardions. C'est pourquoi il ferme les yeux. Et ses yeux clos m'invitent à fermer les yeux moi aussi, à prier, à regarder Dieu en moi et en toi aussi. Et à l'aimer, et à faire comme lui, à pardonner à tout le monde et à aimer tout le monde, à aimer surtout ceux qui souffrent comme lui, à t'aimer toi qui souffres comme lui. Non, c'est la fin. Et j'ai oublié de demander qu'on tape juste une dernière citation. Le lépreux va répondre, « Grand frère, Paul, parce que c'est le prêtre, grand frère, ton Jésus à toi, il est bien plus beau que celui des images. » Notre Jésus, il regardait au côté votre frère, votre sœur à côté, il dit, « Jésus, il ressemblait à un être humain, comme mon frère, ma sœur à côté de moi. » Amen.